Salut à tous, pas de Coupe d'Europe cette semaine, donc pas de double épisode de Vue du banc. Néanmoins, on se retrouve mercredi ou jeudi, puisqu'on va enregistrer mercredi soir le 26e épisode de la saison à l'issue de la journée de Ligue 1 à venir. En attendant, on ne vous laisse pas seul, puisqu'on a décidé de vous proposer un petit zapping Copa Arena. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Copa Arena, qu'est-ce que c'est? C'est une application qu'on a lancée au mois de décembre dernier, et qui propose tous les mois des contenus exclusifs, que ce soit de l'audio, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui, mais aussi de l'écrit, puisque j'ai personnellement repris les analyses de matchs telles que je le faisais sur chroniquetactique.fr. Christophe Kuchli a repris une partie de ce qu'il faisait sur les cahiers du football dans un nouveau format qui s'appelle le banquet tactique. Raphaël écrit des focus. On a aussi des analyses statistiques via Julia Sunsao et Ismaël Afoud. Bref, il y a de l'écrit, mais il y a surtout de l'audio, et c'est ce que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui avec 5 extraits d'émissions différentes. Et en guise de premier extrait, on va revenir sur le premier concept, la première émission développée pour Copa Arena qui s'appelle Première fois. C'est une émission qui revient sur les premiers matchs, les premiers pas de grandes stars aujourd'hui du ballon rond. Et pour la première série, on avait décidé de consacrer ça à la génération 1987, aux 4 cracks de la génération 87, Benzema, Ben Arfa, Menez et Nasri. Et cet extrait est tiré du premier épisode sur Karim Benzema, lorsque Maxime Masson, auteur du livre 1987 Génération sacrifiée, point d'interrogation, raconte à Christophe Kuchli et Elias Belif, ses deux partenaires d'émission, pourquoi Karim Benzema n'a pas forcément le même statut que Ben Arfa, Menez ou Nasri à l'époque.
Alors, ça n'a jamais fait débat, sa position en U17, pour la simple et bonne raison qu'il arrive dans le groupe France quelques semaines avant le championnat d'Europe. C'est lors de la dernière convocation, les derniers matchs tests qu'il fera sa place. C'est René Girard qui le repère sur un tournoi de jeunes alors que Karim fait triompher Lyon. René Girard appelle Philippe Bergerot et lui dit à quelques semaines du championnat d'Europe, si tu cherches un super sub, ce gamin-là est impressionnant. Philippe Bergerot le convoque à Soulac, si je ne dis pas de bêtises, alors qu'ils étaient en préparation du championnat d'Europe, en ayant un discours assez clair, en disant à Karim, je ne te promets rien, viens t'entraîner avec nous, et on avise. Et sur le premier et le deuxième entraînement, et c'est drôle, c'est Philippe Bergerot qui me le racontait, il met tout le monde sur les genoux. Il met des grands gaillards qui étaient Steven Tico, Karim El-Mourabed, Thomas Mangani, qui étaient déjà des beaux bébés d'un 80 et 75-80 kilos, il les met tous sur les genoux. Et à ce moment-là, Philippe Bergerot n'a pas d'autre choix que de convoquer Karim pour le championnat d'Europe. Avec cette position claire, Hatem Ben Arfa et Jérémy Menez sont les deux avant-centres dans le 4-4-2 de Bergerot. C'est plus ou moins inamovible, mais au gré des besoins, Karim Benzema pour avoir du temps de jeu.
Deuxième extrait, direction l'Angleterre et l'un de nos entretiens avec Johan Barbet, défenseur central des Queen's Park Rangers, qui nous explique quels sont les entraîneurs qui l'ont le plus marqué durant sa carrière et surtout pourquoi.
Je dirais Dean Smith parce que c'est lui qui m'a donné l'occasion de vraiment m'imposer au club à Brentford. Et lui jouait vraiment au football parce que le coach qui est venu me chercher en gros à Niort, il a fait que 8 matchs et après il s'est fait virer au bout de 8 matchs et c'est là que Lee Carsley, l'entraîneur de la réserve de Brentford, a repris et en fait il s'est fait virer parce qu'on voyait pas vraiment le style de jeu. Et c'est vrai que quand Dean Smith est arrivé de suite, moi je joue comme ça, c'est 4-3-3, une sentinelle, 2-8, 2 ailiers, 1-9. On pourra varier dans la saison si telle ou telle chose fonctionne pas. Et c'est là où j'ai vraiment appris et j'ai découvert un peu le rôle de défenseur central un peu plus complet parce qu'au final j'avais que 33 matchs en pro en Ligue 2, donc c'est pas grand chose quoi. Donc ouais, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué, on dirait, qui m'a fait le plus évoluer au niveau de mon jeu.
J'ai l'impression que tu accordes vraiment une grosse part à l'épanouissement personnel et le plaisir que tu peux prendre sur le terrain, alors que j'ai l'impression que beaucoup de spectateurs, de fans, de suiveurs accordent beaucoup d'importance au résultat, comme s'il n'y a que la victoire qui pouvait donner du plaisir. Je ne vais pas dire que gagner en jouant mal, ça te rendrait triste, mais j'ai l'impression que tu dois quand même te faire plaisir et pas avoir l'impression d'aller à la mine et juste balancer loin devant et gagner des duels aériens.
Complètement, la preuve, quand j'ai signé à Queen's Park, j'étais en contact avec Cardiff, mais Cardiff, ça me faisait pas rêver. Alors oui, financièrement, c'était très intéressant, mais dégager grand ballon sur l'attaquant et voir ce qui se passe, dès qu'il y a une touche, mettre une longue touche dans la boîte, etc. C'est pas du tout ma philosophie de jeu, et c'est vrai que ouais, je me voyais pas du tout aller là-bas, et ouais, c'est pour ça que je suis allé aussi à Queen's Park, parce que voilà, le coach joue au foot, et voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime le foot, et si on peut jouer au ballon et marquer des buts et gagner des matchs, je suis le plus heureux. Et à Brentford, on n'a pas réussi à monter les 4 années où je suis là, mais je peux vous dire qu'il y a très très peu d'équipes qui nous ont fait tourner, et on en a fait tourner plus d'une, quoi. C'est frustrant quand on fait match nul, voire même quand on perd le match, mais au moins on sait qu'on a respecté notre philosophie de jeu et qu'on a tout tenté, et que voilà, j'ai des matchs où on a perdu et je suis rentré à la maison et j'ai dit putain, j'ai kiffé ce match, c'était génial, on a super bien joué. Et forcément, le résultat, c'est quelque chose, c'est ce qui compte à la fin. Et moi aussi, je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner les matchs. Et des fois, quand je gagne un match et qu'on n'a pas mérité, je suis quand même content. Mais je vais pas prendre du plaisir si je gagne 15 matchs d'affilée en étant dégueulasse dans le jeu, quoi.
Troisième extrait, retour en France, tout simplement Ligue 1, l'émission portée par Edu et Yanis, assisté de Raphaël Cosmidis à l'animation. Et dans cet extrait tiré du 2e épisode consacré aux Girondins de Bordeaux, Edu clame tout son amour pour Pascal Feindouno.
Bon, moi j'aime bien exagérer, donc je vais continuer dans l'exagération, mais pour moi la carrière de Pascal Feindouno, c'est un drame de Ligue 1. C'est un drame de Ligue 1, et je pense que toutes les personnes qui ont joué avec Pascal Feindouno, qui ont vu Pascal Feindouno, ils sont tous unanimes sur son cas. C'est que c'était un phénomène, c'était un magicien. Et le regret qu'on peut avoir, c'est que il était magicien sur le terrain, il était un peu magicien en dehors, parce que c'est Pascal Feindouno, c'est un personnage aussi, c'est pas seulement un phénomène du ballon, c'est aussi un personnage, et c'est malheureusement ce qui l'a contraint à avoir la carrière qu'il a eue. Alors il a une carrière tout à fait honnête, mais la carrière qu'il a eue par rapport au talent qu'il a, pour moi c'est un gâchis immense. Et quand tu revois des images de lui, Pascal Feindouno, c'est très simple, hein, c'était le joueur Canal+. Dimanche 21h, s'il y a Pascal Feindouno sur la pelouse, tu sais que tu vas passer un bon moment, parce que ça va être son moment. Et quand il était dans un grand jour, quand il était dans un bon jour, on parlait de Wendell sur le premier épisode, mais bon, Pascal, c'est un niveau encore bien bien supérieur en termes de talent et en termes de qualité technique à Geraldo. Mais Pascal, quand il était dans un grand jour, c'est du régal constant, parce qu'il avait un crochet court. Il était saignant, il mettait n'importe qui sur les fesses, et après aussi il avait une capacité à pouvoir finir de façon spectaculaire, soit par la frappe, soit par une reprise de volée, et puis il avait du flair aussi dans la surface de réparation. Hier d'ailleurs, en revoyant toutes les vidéos, je me suis refait une compilation de Pascal à Saint-Étienne, et il met des buts. Il y a un but face à Marseille, je sais pas si vous vous souvenez, où il est à 25 mètres des cages, il fait un passement de jambe feinte, et sur un pas, quasiment à l'arrêt, il envoie un missile pied droit dans la lucarne de Rougneux ou de Barthez, peut-être Barthez. Et tu te dis, mais ce joueur, il est pas normal.
Quatrième extrait, on part à la recherche du milieu parfait avec Julien Assunção et Ismaël Afoud. Dans leur premier épisode, ils se sont entretenus avec Paul Lannes et ils ont parlé polyvalence.
Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que cette polyvalence, ça peut être un frein à la progression, parce que ça t'empêche d'avoir des automatismes, ou au contraire, ça te permet de t'adapter à plein de situations dans le jeu, en fait?
Bah, c'est les deux. T'as tout résumé, en fait. La polyvalence, ça permet de s'adapter, c'est un moyen de s'adapter à tous les systèmes. Ça prouve une certaine intelligence dans le... une certaine intelligence pour être capable de s'adapter justement à une situation donnée. Donc c'est très bien de pouvoir dépanner son équipe à un poste quand il faut et pour être capable de pouvoir faire le job. Mais je trouve que pour progresser, c'est pas forcément l'idéal, parce que quand tu es un petit peu trimballé d'un poste à l'autre, tu peux pas créer d'automatisme de poste. Et c'est par la répétition que tu progresses. Et quand t'es par exemple le milieu de terrain défensif et que tu joues tout le temps milieu de terrain défensif et que tu as la entre guillemets la confiance de l'entraîneur qui te fait jouer régulièrement, ça te permet justement de match après match de d'analyser ce qui a été bon, ce qui a été moins bien, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton positionnement pour bonifier le jeu de l'équipe, dans l'orientation de ton corps par exemple, ou dans la manière dont tu vas te placer par rapport à ton autre par rapport à ton acolyte du milieu de terrain. C'est des choses sur lesquelles tu peux progresser quand tu sais que tu vas jouer toujours au même poste, qui peuvent te permettre de progresser sur la durée, sur une longue période. Une fois que tu as compris un peu le cadre et les bases de ce que souhaite l'entraîneur, comment tu vas pouvoir, entre guillemets, sortir un peu de ta zone de confort pour apporter un plus après avoir vraiment rempli ta mission déjà de base, tu vois. Et ça permet, voilà, le fait de jouer tout le temps au même poste, ça permet d'analyser ce qui va moins, de progresser et de se donner aussi certaines certitudes à ce poste-là. Quand t'es ballotté d'un poste à l'autre, eh ben forcément t'es toujours dans un rôle d'adaptation. Donc tu fais le job, mais il y a aucun moyen de bonifier ça. Donc la polyvalence, c'est à double tranchant, j'aurais tendance à dire.
Ouais, et puis ça permet de, quand on joue toujours au même poste, d'avoir vraiment une notion de l'espace autour de soi qu'on connaît tellement par cœur que en fait on n'a même plus besoin d'y réfléchir. Ça se fait naturellement. Du coup, on peut réfléchir à d'autres choses.
Exactement.
Plus voir ses coéquipiers. Voilà, c'est vrai que j'imagine bien, voilà, l'intérêt que ça a de se sentir à l'aise, de se déplacer un peu dans son espace sans même y réfléchir. Et c'est vrai que ça, c'est
exactement, parce que il y a quelque chose que les gens ne ressentent pas, évidemment, mais c'est vraiment la présence du corps dans l'espace, le positionnement qu'on va prendre par rapport à un ballon qui va être situé sur telle ou telle partie du terrain. Comment je me situe déjà moi dans l'espace et comment j'oriente mon corps par rapport à cette action-là précisément. Parce que en fait, ce sont des choses qui vont nous permettre de gagner peut-être le dixième de seconde qu'il faut pour aller plus vite que l'adversaire, pour anticiper un ballon, pour pouvoir jouer en une touche et créer un déséquilibre. Et quand on joue toujours à un poste et qu'on peut progresser à ce poste-là, ça permet déjà de savoir que le latéral droit, il est toujours placé là à tel moment, donc on sait qu'en une touche, on peut renverser le jeu directement. Ça permet en fait de gagner du temps, et l'important au football, c'est de déséquilibrer l'adversaire, et on le fait par l'anticipation et par le gain de temps qu'on va avoir. Et c'est souvent, mais les gens peuvent pas le décrypter vraiment, c'est souvent par notre position de départ, à la fois notre position de départ et l'orientation de notre corps dans l'action donnée, quoi.
Ouais, donc c'est la suite.
Exactement.
Et on termine ce tour d'horizon par les sagas. Certains connaissent sans doute déjà les sagas euros qu'on avait pu faire sur Patreon. Sur Copa Arena, on s'est lancé dans les sagas 90, où on refait les meilleures épopées des clubs français dans les années 90. On a fait une première série consacrée au FC Nantes et conclue avec un entretien de Laurent Guyot, qui était aux premières loges évidemment, pour nous conter cette saga-là et nous permettre de la conclure. On vient de démarrer une saga consacrée à l'OM, saison 90-91, OM finaliste malheureux de Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais avant, il y a de très belles performances des Marseillais. Et dans les premiers tours, il y a surtout un homme qui nous a impressionnés, c'est Jean Tigana.
Tigana, qui peut avoir représenté le côté, je sais pas, un peu box-to-box, etc. Sur ce match-là, il fait des passes d'Iniesta, en fait. C'est un peu la comparaison que tu faisais, ouais. Raphaël. Ouais. C'est-à-dire que c'est là-dessus, c'est le mec qui va te faire les passes qui cassent des lignes depuis des positions assez reculées.
Mais en fait, j'ai l'impression, Flo, qu'il est à la frontière entre les récupérations de balles et le volume de jeu qu'on attribuerait à Kanté, et ouais, la finesse et l'élégance d'Iniesta. C'est un peu un espèce de... Aujourd'hui, ce serait un méga Kimmich, en fait.
Ouais, ou un Naby Keïta s'il avait continué à progresser.
Et si, oui, avec, après, je avec pense Liverpool. Je pense que Naby Keïta à 25 ans est moins fort que Tigana à 35 aussi.
Ah oui, oui, non, mais ça je dis pas le contraire. Non, mais oui, t'as l'impression d'avoir vraiment la fusion des milieux aujourd'hui qui sont plus compartimentés que lui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas de joueur avec le volume de Kanté et la finesse d'Iniesta. Je reprends ton propos, mais je vois pas d'autres exemples, en fait.
J'ai un exemple, c'est la Coupe du Monde 2018 de Modric.
Oui,
en termes de volume de jeu et de technique.
Ouais, et encore, parce que la Coupe du Monde 2018 là, après Tigana, on l'a vu sur 2-3 matchs, mais la Coupe du Monde 2018 de Modric, elle est pas non plus monstrueuse et régulière, on va dire. Il y a des hauts et des bas quand même.
Je pense au pic et aux courses qu'il faisait à la 114e contre la Russie où tu disais mais qu'est-ce qui se passe.
Mais ce qui est vrai, c'est que sur la capacité à tout faire, et tu vois, sur Copa Arena, il y a un autre sujet qui s'appelle le milieu parfait. Quand tu vois les prestations de Tigana là, tu te dis bah voilà, le milieu parfait en fait c'est ça.
Et voilà pour ce petit quart d'heure de découverte, cette petite fenêtre ouverte sur les contenus de Copa Arena. Pour nous rejoindre, c'est très simple, et pour en avoir beaucoup plus, c'est aussi très simple. Rendez-vous sur coparena.com pour vous inscrire, c'est coparena.com. Ça coûte 3,99€ par mois, c'est sans engagement. Une fois l'inscription complétée, rendez-vous sur l'Apple Store ou le Play Store selon votre téléphone pour télécharger l'application, afin de profiter de tout ça et de bien d'autres choses encore, car ce zapping ne nous a pas permis de tout vous dévoiler. Du coup, rendez-vous sur coparena.com et vite pour découvrir la suite. Et sinon, rendez-vous jeudi pour le prochain épisode de Vue du Banc. Salut !